soir. Bon, je vais d'abord vous présenter la tribune. Donc, je vais d'abord vous présenter la tribune. À ma droite, Jean-Pierre Mercier, ouvrier de l'automobile Thurisa Holnet.
Délocalisé à l'autre bout du monde ou dans le département voisin. C'est la même politique partout. Diminuer les effectifs, augmenter la charge de travail sur chaque salarié, se servir de l'intérim ou des CDD pour augmenter les cadences sans avoir à embaucher, dans le seul but de dégager des profits supplémentaires. Et par tous les moyens, chercher à réduire le nombre de travailleurs et grossir sans cesse l'armée des chômeurs. Avec des conséquences que nous ne connaissons que trop bien dans le département, montée de la misère, dégradation dramatique des conditions de vie de tous, poussée de la violence stérile, et j'en passe. PSA Aulnay est un exemple criant de cette politique du patronat. Réorganisation du travail et augmentation de ce qu'ils appellent la productivité. Usage permanent de la précarité et finalement projet de fermeture. Nous avons droit à tout ça. Avec la succession de réorganisations ou de nouvelles répartitions du travail, le patron trouve le moyen de pousser toujours plus loin l'augmentation des charges de travail sur chaque ouvrier. C'est une opération supplémentaire par-ci, une autre par-là, et au final, un poste qui saute. Les ouvriers le payent immédiatement en étant obligés de travailler plus vite, se fatiguer plus tôt et vieillir avant l'âge avec dès 30 ans, des tendons et des articulations abîmées. Pour faire passer cette aggravation des conditions de travail, la direction se sert entre autres, de façon cynique, des intérimaires parce qu'elle sait qu'ils ne sont pas en position de refuser quoi que ce soit, que contrairement à toutes les sornettes qu'on nous raconte, ils veulent travailler et décrocher une embauche et que pour ça, individuellement, ils sont coincés et n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients de la situation. Dans l'usine, bien souvent, embauchés et intérimaires viennent des mêmes quartiers quand ils n'appartiennent pas à la même famille. Entre nous, il y a cette solidarité de ceux qui triment sur la même chaîne et qui régulièrement s'unissent et se mobilisent pour résister à la politique du patron. C'est en intensifiant cette exploitation d'année en année que PSA a bâti sa richesse, hier comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, la direction du groupe veut aller plus loin, bien plus loin, programmant la fermeture de l'usine. Vous le savez, ce plan secret a été divulgué par la CGT au mois de juin dernier. En plus de la fermeture de l'usine d'Aulnay, il prévoit la fermeture de celle de Sevel-Nord près de Valenciennes et celle de Madrid. La direction avait finalisé ce plan en août 2010. C'est-à-dire qu'il a été pensé, préparé bien des années en amont, bien avant l'aggravation de la crise en 2008. 2010, c'est le moment où Varin, le PDG de PSA, promettait publiquement, la main sur le cœur, de ne pas fermer d'usine en échange d'un prêt gouvernemental de 3 milliards à taux réduit. Pendant ce temps, son état-major, couchait sur papier, secrètement, dans les bureaux du conseil d'administration de PSA, la fermeture de 3 usines. Concernant l'usine d'Aulnay, ce ne sont pas moins de 3500 travailleurs qui sont directement menacés d'être jetés dehors fin 2013 ou début 2014. À cela, il faut ajouter les milliers d'emplois des fournisseurs, des sous-traitants. Sans parler des autres catégories sociales, les commerçants ou les artisans, dont l'activité dépend de la consommation des ouvriers. Si cette fermeture devait avoir lieu, ce serait une véritable catastrophe sociale pour le département et la région. Aujourd'hui, Peugeot est une entreprise qui emploie des milliers de jeunes ouvriers du 93. La fermeture ne ferait qu'augmenter les difficultés pour tous les jeunes de trouver un emploi, même en intérim, dans un département déjà ravagé par le chômage. C'est uniquement par souci de rentabilité financière que PSA veut fermer l'usine d'Aulnay. Son plan est très simple, extrêmement simple. Fermer Aulnay d'un côté et de l'autre surchargé, saturé, comme ils disent, les usines de Poissy et de Mulhouse en les faisant tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est donc pas pour délocaliser la production à l'étranger que PSA voudrait fermer ces 3 usines. De toute façon, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement, pour nous, le problème, ce n'est pas que PSA investisse à l'étranger. Les ouvriers chinois, slovaques ou brésiliens sont nos frères. Ils ont besoin autant que nous de travailler, d'avoir un emploi et un salaire pour vivre. Ce n'est pas et ce ne sera jamais à eux que nous nous en prendrons. Et vous savez, Dans une usine où se côtoient des travailleurs de plus de 40 nationalités, croyez-moi, les ouvriers apprennent tous les jours et apprendront encore ce que signifie la phrase « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ». Ceux contre qui nous nous battons, ce ne sont pas les travailleurs d'autres pays, mais nos patrons bien français qui veulent nous jeter à la rue. Ce que nous contestons, ce sont les suppressions d'emplois et les licenciements, quel que soit le prétexte invoqué. Alors, pour arriver à fermer l'usine à l'horizon 2013-2014, la direction doit, en grande partie, réorganiser sa production sur différentes usines. Pour transférer toute la production d'Aulnay vers l'usine de Poissy, la direction doit du coup transférer une partie de la production actuelle de Poissy vers les usines de Mulhouse et de Sochaux. Cette réorganisation aura comme conséquence d'augmenter lourdement les charges de travail et de faire travailler les ouvriers à des horaires particulièrement pénibles, comme la nuit ou le week-end. C'est ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Tout ça, c'est la répartition du travail, vue par la direction. Envoyer au chômage des milliers de travailleurs et surcharger de travail des milliers d'autres. Le but étant uniquement de rentabiliser son appareil de production et de dégager plus de bénéfices afin de spéculer un peu plus. Notre vision du partage du travail n'est évidemment pas la même, elle est diamétralement opposée. Quand on est salarié, que l'on soit ouvrier, technicien ou ingénieur, notre seule richesse, le seul moyen de gagner notre vie, c'est notre emploi, qui nous permet d'avoir un salaire. Perdre son emploi, surtout en période de crise, c'est tout perdre. Car la route qui mène du chômage à la pauvreté et de la pauvreté à la misère, voire à la rue, est courte, très courte. Il est donc nécessaire, vital, pour le monde du travail, d'interdire purement et simplement tous les licenciements. Pour nous protéger, il faudra imposer une autre répartition de la production, c'est-à-dire un partage du travail entre tous sans diminuer les salaires. Une répartition de la production à l'échelle du groupe pour permettre à tous les travailleurs des différentes usines d'avoir un travail et donc un salaire. Mais aussi une autre répartition du travail au sein même de chaque usine, entre tous les bras, intérimaires compris, pour diminuer la charge de travail sans baisser les salaires. Et d'ailleurs, concernant les centaines de précaires, qu'ils soient intérimaires ou CDD, il faudra bien un jour imposer leur embauche en CDI. Alors techniquement, est-ce que c'est possible ? Bah, bien sûr. PSA est en train de nous prouver en le faisant à sa manière. Répartir les productions, répartir le travail, y compris par des changements industriels lourds, ce ne sont finalement que des problèmes techniques, des problèmes que les travailleurs collectivement sauraient résoudre pour leurs propres intérêts. D'ailleurs, les objections de la direction ne sont pas de cet ordre-là. Elles sont d'ordre financier, vous vous en doutez. Ça coûterait de l'argent. Oui, ça coûterait de l'argent. Et alors ? Ça coûterait certainement moins que les sommes englouties chaque année par les actionnaires qui se goinfrent sur notre dos. Et ça coûterait bien moins, infiniment moins socialement, que le prix à payer pour voir des milliers de travailleurs glisser vers la pauvreté. Utiliser l'argent du groupe Peugeot pour maintenir tous les emplois et les salaires aurait, pour une fois, une véritable utilité sociale. D'autant plus que de l'argent, alors là, PSA en regorge. Depuis quelque temps, malgré tout ce qu'on peut entendre sur la soi-disant morosité du marché, PSA, ces dernières années, a battu record de vente sur record de vente. Et pour 2011, la direction donne des chiffres en baisse. Alors tenez-vous bien, une baisse de 1,5%. La catastrophe. Et en plus, cette légère baisse est principalement due à la perte de production engendrée par la catastrophe de Fukushima au Japon, et par une paralysie de la livraison de son fournisseur de vis en septembre dernier. Ça veut dire que l'effondrement du marché est encore, pour l'instant, du domaine de la propagande patronale. En septembre dernier, Varin, le PDG de PSA, vous savez, l'homme qui touche 9 000 euros par jour, week-end compris, se vantait que l'entreprise était en très bonne santé financière, s'étant même enrichi tout en traversant la crise. Peugeot a accumulé plus de 11 milliards de trésorerie, chiffre qui n'a jamais été publiquement démenti par la direction. Alors, concernant ces 11 milliards, par contre, en interne, la direction a tenté de minimiser cette annonce, parce que ça faisait désordre, en expliquant lors d'une réunion avec les syndicats qu'il ne s'agissait pas de fonds propres, surtout pas, mais d'une simple ligne de crédit dans certaines banques. Outre le fait que chacun d'entre nous voudrait bien avoir ce genre de facilité à sa banque, je ne cache pas, comment croire ce que disent les dirigeants de Peugeot quand on sait qu'ils mentent comme des arracheurs de dents? À ces 11 milliards, il faut ajouter que cet été, PSA a claqué plus de 200 millions de rachats de ses propres actions pour les distribuer à moindre frais sous forme de stock-options à ses hauts cadres. Il faut ajouter les 257 millions de dividendes qui ont été distribués aux actionnaires. Alors effectivement, les actionnaires de PSA ont traversé la crise sans aucune difficulté. PSA fait partie de ces grandes entreprises qui ont été subventionnées, soutenues, assistées à coups de milliards de fonds publics, sous toutes les formes. Près de 3 milliards à taux réduit, crédit recherche-développement, déduction fiscale de toutes sortes, bonus-malus, sans oublier la prime à la caisse. Pour le gouvernement, peu importe si tous ces milliards ont contribué à l'explosion de la dette publique, peu importe si au final, tous ces milliards ne serviront qu'à licencier et fermer des usines. Les actionnaires, la famille Peugeot en tête, n'auront pas perdu le moindre centime. Leur fortune sera consolidée. Et c'est ça qui compte aux yeux des ministres. Quand on pose le problème de l'utilisation de ces 11 milliards, nombreux, très nombreux, sont ceux au gouvernement et même à gauche qui disent que PSA a un groupe privé et que le gouvernement ne peut pas intervenir. Quelle foutaise, quel culot et quel discours révélateur du camp dans lequel se placent ceux qu'ils tiennent. Quand il s'agit de déverser des milliards d'aides publiques dans les caisses de PSA, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de contester les milliers de licenciements, d'un coup, ça ne serait pas possible. Pour ces politiciens, le caractère privé de l'entreprise n'est qu'un prétexte pour ne rien faire et s'aplatir devant Peugeot. Ces 11 milliards sont le fruit du travail de milliers, de centaines de milliers de travailleurs en France et de par le monde. Alors il serait logique que les travailleurs de Peugeot puissent non seulement avoir un droit de regard sur l'utilisation de ces 11 milliards, mais qu'ils en aient le contrôle. Et là, on serait sûr d'une chose, qu'ils ne seraient pas joués et perdus dans la spéculation boursière, mais qu'ils serviraient à financer le maintien de tous les emplois du groupe sans diminuer les salaires. La famille Peugeot, principal actionnaire du groupe PSA, se moque éperdument des conséquences sociales de la fermeture d'une usine comme Aulnay, dès lors que ça lui rapportera de l'argent. Ça va provoquer un véritable tsunami social dans un département déjà ravagé par le chômage, peu importe. Qu'est-ce que ça peut leur faire à ces riches? C'est à leurs valets politiciens de droite comme de gauche de gérer la situation, c'est à la collectivité de payer les faux frais du chômage, de la misère et demain de l'aide sociale. Eh bien, cette situation, il n'y a aucune raison de l'accepter. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, les travailleurs vont lever la tête et contester ces décisions criminelles. Oui, nous, à Lutte ouvrière, nous, militants communistes, nous restons profondément optimistes sur l'avenir. Pour l'instant, la bourgeoisie fait la pluie et le beau temps. Elle semble mener tout droit la société dans le mur. Mais nous qui vivons dans un département où plusieurs millions de travailleurs habitent et travaillent, où à part quelques îlots de richesse perdus au milieu des cités, la classe ouvrière est partout. Eh bien, nous restons persuadés que l'avenir appartient toujours à notre camp, à notre classe. Restons persuadés que l'avenir appartient toujours à notre camp, tout simplement parce que la classe ouvrière reste la seule force sociale qui sera capable de balayer ce système économique qui broie les travailleurs. Alors ça commencera sans doute par des luttes défensives, comme celles que nous espérons voir se développer dans le groupe PSA pour empêcher la fermeture des usines. Mais peu à peu, les travailleurs retrouveront l'énergie, la conscience de la puissance de leurs forces, la conscience de leurs intérêts. Oui, nous restons fermement convaincus que le changement, le vrai, viendra du bas, viendra de mouvements sociaux, profonds, massifs, où dans ces moments devient possible le changement radical de la société.